Chelou.
Et dans cette édition, on parlera des migrations. 14 000 arrivées, 21 000 départs. L'ISPF fait le point sur le solde migratoire. De l'actualité sociale aussi, le calme avant la tempête. Et pour terminer, du blob. Le journal de la rédaction, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
L'ISPF passe les migrations à la loupe.
Oui, et elle le fait sur la base de deux recensements en 2017 et 2022. 5 ans pendant lesquels 20 900 personnes ont quitté le Fénois et 14 000 autres s'y sont installées. Le solde migratoire est donc toujours déficitaire. C'est d'ailleurs le cas depuis près de 20 ans. 1350 personnes en moins chaque année qui sont pour l'instant compensées par le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès. Et c'est sur les mouvements de population que l'ISPF a voulu faire le point. Côté départ, on ne sait pas beaucoup de choses, si ce n'est que 60% de ceux qui quittent le Fénois sont des natifs et que les plus concernés sont sans surprise les 21-24 ans. À l'heure des études, des stages ou de l'armée, c'est près d'un quart de la classe d'âge qui quitte le Fénois. 17% si on étend aux 18-30 ans, avec des taux encore plus élevés aux Marquises ou aux Australes. Plus étonnant, on observe aussi un pic de départ entre 40 et 49 ans. Mais l'Institut en sait beaucoup plus sur les arrivants qu'elle a pu interroger lors du recensement. Premier renseignement, ils arrivent en famille.
On peut avoir dans l'inconscient des personnes qui arrivent toutes seules sur le territoire. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les gens, ils arrivent en famille sur le territoire. De la même façon que ceux qui vivent ici en Polynésie, c'est 85% des gens qui vivent en famille parmi les arrivants. Et donc, dans ces familles, on peut avoir donc des familles qui arrivent d'ailleurs en entier, mais aussi des familles entièrement de personnes natives du territoire et des familles qui sont un peu mixtes, disons. Donc, des couples avec un natif, un non-natif, des couples de natifs avec des enfants qui sont nés ailleurs. Il y a autant de cas de figure que de familles qui sont arrivées sur le territoire sur la période.
Voilà Julie Pasquier, démographe à l'Institut de la Statistique de Polynésie française, qui précise que 15% de ces arrivants sont nés en Polynésie. C'est d'ailleurs la plus grande tendance que la spécialiste observe sur la période 2017-2022. Le nombre de retours de natifs au Fénois est en nette augmentation, plus 32%. Sur les 14 000 arrivées, 2150 personnes reviennent au pays et ils reviennent avec des conjoints ou des enfants, 1600 en tout. L'ISPF s'est aussi intéressé aux diplômes et au taux d'emploi.
Ces arrivants, on sait qu'ils sont plus diplômés. C'est 85% de taux de niveau bac ou supérieur au bac. Et ils sont aussi beaucoup plus en emploi. Et donc, en effet, le combo gagnant, c'est les personnes qui sont diplômées du supérieur et qui sont natives de Polynésie française. C'est ceux qui ont un taux d'emploi qui est le plus élevé parmi les nouveaux arrivants et donc parmi la population en général.
Voilà, 82% des natifs qui sont partis puis revenus au pays étaient en emploi lors du dernier recensement. En clair, partir se former à l'étranger a tendance à payer.
Dans l'actualité sociale, le calme avant la tempête.
Oui, car vous le savez, la frappe n'a pas renoncé à son mouvement de grève. Elle a seulement suspendu le préavis à un jour de son terme. Elle attend le retour du président Moetei Broverson, prévu pour demain, pour reprendre les discussions ou le conflit. Les tensions demeurent donc avec le pays, mais aussi entre syndicats. Ça s'est senti lundi lors du Conseil supérieur de la fonction publique, quand la frappe et deux de ses alliés ont refusé de voter la proposition de revalorisation des catégories D, adoptée par tous les autres membres du Conseil, et parmi eux Atia et moi et la CSTPFO, premier syndicat du pays, et qui était aussi premier de la fonction publique jusqu'à la percée de la frappe aux élections de l'année dernière. Son secrétaire général, Patrick Galnon, ne cache pas son incompréhension face à la stratégie de Jean-Paul Ourima, un ancien rival au sein de FO. À l'entendre, la proposition du gouvernement qui propose près de 13 000 francs d'augmentation pour les plus bas salaires par mois et des revalorisations sur toute la catégorie D. Eh bien, pour Patrick Galnon, c'est une avancée et il n'y a aucune raison de la refuser, si ce n'est pour contenter des promesses électorales.
Ils ont été dans les services et ils ont montré la lune, ils ont promis la lune. Moi, j'ai regardé le doigt de celui qui paye. C'est le gouvernement qui paye, il nous dit 266 millions, je les prends. On prend les meilleures propositions, on est dans les négociations et on reviendra à la charge plus tard. Si vous dites qu'on a des négociations au mois de mars, eh bien, on verra au mois de mars. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire des menaces de grève tous les 5 minutes.
Voilà Patrick Galnon qui se montre critique sur la frappe sur le fond, mais aussi sur la forme. Un retour en grève moins d'un mois après la précédente. Des engagements qui n'ont pas été inscrits dans le protocole d'accord. Une deuxième grève suspendue avant même d'avoir commencé. C'est même sur le ton employé par le syndicat de Jean-Paul Ourima à l'égard du gouvernement et de la présidence en particulier, qui semble à Patrick Galnon complètement inadapté.
Il faut avoir un certain respect pour la fonction, même s'ils n'aiment pas le président, enfin M. Broderson, au moins qu'on respecte le président. Vous savez, en négociation, c'est un principe simple. Il faut que chacun se respecte. Hein. Autrement, on n'est pas en négociation, on est en ultimatum. Je pense que la frappe est trop en ultimatum. Et du coup, ben, le gouvernement se rétracte. Et puis voilà. Après, c'est une question de force. Hein. Après, il faut montrer sa force, jusqu'où on peut aller. Hein. La frappe fait son expérience, c'est bien.
Voilà, en clair, la frappe est trop amateur et incapable de discuter. Ça ne devrait pas faire retomber les tensions entre les deux syndicats qui se retrouveront, quoi qu'il arrive, dans les grandes négociations sur le point d'indice des fonctionnaires. Elles ont été programmées par le gouvernement pour la fin du mois de mars.
Changement de sujet avec un appel à projet qui devrait être lancé pour de nouvelles fermes photovoltaïques.
Oui, alors que les quatre premières grandes centrales du pays ont été reliées au réseau entre novembre et décembre dernier, le gouvernement s'apprête à publier un nouvel appel à projet. Cette deuxième tranche est très attendue. Elle a été reportée une première fois fin 2023 pour prendre le temps de discuter du cahier des charges et pour parfaire la préparation de la procédure. De nouvelles règles du jeu ont été adoptées mercredi en Conseil des ministres. Et s'il y a un mot à retenir du nouvel arrêté, Charles Irénée, c'est celui de coactivité.
Oui, coactivité sur le foncier de ces fermes. Le gouvernement ne veut pas que des terrains soient monopolisés par les panneaux solaires et les promoteurs sont plus que jamais incités à leur trouver une double valorisation. Alors il y a bien sûr l'option de l'agrivoltaïque qui avait été exploitée dans la première fournée de fermes. Les Sioux avaient surélevé leurs panneaux pour laisser paître les vaches à Talavao. Les Moux avaient installé une partie de leur centrale sur des serres pour faire pousser du café ou de la vanille à Mataya. Mais la coactivité, cela peut aussi passer par l'installation de ces grandes fermes sur la toiture de bâtiments, de hangars ou en ombrière sur des parkings. Des solutions qui devront être finement étudiées puisqu'elles constitueront 50% de la note finale des promoteurs dans l'appel à projet.
Un appel à projet qui ne visera que le nord de Tahiti entre Atimaono et Faone. D'abord parce que cette zone est plus proche de la zone urbaine de Papeete, le centre de la consommation. Aussi parce qu'elle est couverte par le réseau 90 000 volts de la TEP, contrairement à Taravao et à la Presqu'île dont le réseau de transport est déjà presque saturé. Finalement, la seule question qui reste en suspens avant l'appel d'offres, Charlie, c'est celle du stockage.
Et oui, car l'énergie photovoltaïque est par essence intermittente et soumise aux caprices de la météo. Elle nécessite donc des capacités de stockage, ne serait-ce que pour lisser la production dans l'heure ou dans la journée. Les quatre premières fermes étaient équipées de volumineuses batteries qui représentaient une part importante de l'investissement et de l'ingénierie. Alors forcément, ceux qui ont déjà développé ce genre de projet aimeraient que les règles soient les mêmes pour la deuxième fournée, mais de plus petits acteurs préféraient se libérer de ce problème et que ces capacités de stockage soient installées directement sur le réseau par la TEP. Quel choix a fait le pays ? Ce n'est que dans le cahier des charges de l'appel à projet qu'on aura la réponse.
Voilà un cahier des charges qui doit être publié dans le courant du mois de février.
On va à Paris maintenant, où la visite du président du pays s'est terminée hier.
Oui, Moeta Imbroversen s'est dit satisfait de ces différentes rencontres. Ça s'est terminé avec le Premier ministre François Bayrou. Il a bien noté nos demandes et nos enjeux, a dit Moeta Imbroversen. Une inquiétude reste toutefois sur la baisse de la part de l'État concernant le contrat de développement et de transition pour les communes. Si le président du pays avait été rassuré après avoir vu le ministre des Outre-mer Manuel Valls, il attend toujours une confirmation ferme, mais elle tarde à venir du côté de Bercy. Et on reste à Paris où le Sénat est en pleine étude du budget outre-mer. Il a adopté hier un amendement déposé par Teva Rofritsch et Lana Tetuanui. Ce texte prolonge de 3 ans le délai de dépôt devant le CIVEN des demandes d'indemnisation des ayants droit de victimes du nucléaire décédées avant 2019. Un délai qui devait arriver à échéance le 31 décembre 2024 et dont le prolongement est soutenu par le gouvernement Bayrou. A noter qu'il n'existe pas de date limite pour le dépôt des dossiers par les victimes elles-mêmes.
Et puis ce rapport du Sénat sur l'action de l'État en Outre-mer, les parlementaires encouragent un choc régalien.
Oui, voilà, ce sont leurs mots, un choc régalien, et c'est même urgent, est-il expliqué dans un communiqué de presse qui présente ce rapport de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Après une année de mission, les rapporteurs parlent d'une insécurité alarmante et multiforme dans la quasi-totalité des départements et régions d'Outre-mer. Depuis 10 ans, les crimes et délits progressent, plus d'homicides, plus de violences, plus de trafic de drogue. 50% de la cocaïne saisie en France l'est dans les Antilles et en Guyane. Même tableau dans les collectivités d'outre-mer, à l'exemple de la Polynésie, plus 16% de coups et blessures, plus 11% de violences familiales et plus 4,5% d'utilisation de drogue. Si les outre-mer représentent 4% de la population française seulement, ils additionnent aussi 30% des homicides et 50% des vols à main armée. Les parlementaires jugent l'État affaibli sur ses missions fondamentales, c'est-à-dire la sécurité, la justice et la protection des frontières. L'État doit donc renforcer la sécurité, multiplier la lutte contre les violences, renforcer la police et réaffirmer sa souveraineté. Bref, il faut un choc régalien.
Lucie, une petite devinette pour continuer. Ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon.
C'est un blob, ou de son nom scientifique Physarium polycéphalum, un organisme unicellulaire fascinant devenu une star de la recherche scientifique et qui sera le sujet d'une conférence au musée de Tahiti et des îles ce samedi. Alors ça ressemble à une omelette où des œufs brouillés s'émouvent verdâtres ou jaune fluo. On peut le découper en morceaux puis le réassembler. Il se déplace, il mange et il apprend alors qu'il n'a même pas de cerveau. L'experte en la matière est française. Audrey Dussutour est directrice de recherche au CNRS et spécialiste du blob. C'est même elle qui l'a nommé ainsi et elle qui l'a rendu populaire. Et même si elle l'étudie sous toutes les coutures depuis plusieurs années, elle continue à être captivée.
Alors ce qui me fascine, c'est qu'on ne le comprend pas. Tant que scientifique, on aime bien comprendre les choses. Et c'est un organisme qui nous surprend puisqu'il casse plein de codes. Par exemple, normalement, un organisme, ça meurt. Le blob, il a une immortalité biologique. Un organisme, on ne peut pas le couper en morceaux. Le blob, on peut le couper en morceaux. Et une cellule, normalement, c'est tout petit. Lui, il peut faire jusqu'à 10 mètres carrés. Donc, chaque fois, il casse des codes et on essaye de comprendre comment il arrive à ses prouesses.
Et son surnom Blob s'inspire d'ailleurs d'une autre de ses capacités étonnantes, sa croissance. Il peut atteindre 2 fois sa taille par jour quand il est de bonnes conditions. Et ce qu'il aime, c'est l'humidité, les sous-bois, mais aussi les flocons d'avoine. C'est ce qu'on lui donne dans les laboratoires. Et les bactéries quand il est dans la nature. Aujourd'hui, la scientifique travaille sur plusieurs projets appliqués pour la bio-ingénierie. On parle de dépollution des sols, car le Blob est capable d'accumuler les métaux lourds. Une société veut s'inspirer des réseaux construits par le Blob pour réussir à limiter l'empreinte carbone des réseaux de télécommunications. On s'intéresse aussi à son immortalité biologique. Et pour en savoir plus, il faudra aller au musée de Tahiti et des îles samedi au programme des ateliers scientifiques à partir de 13h et la conférence sur le blob à 17h30, le tout organisé par l'association ProScience.
C'est important parce que les sciences paraissent toujours très compliquées. Et pour les jeunes, avoir des activités comme ça, où tu deviens un peu acteur, tu partages avec les associations, les scientifiques, les acteurs locaux des sciences, et se rendre compte qu'en fait, les sciences, elles sont partout. Hein, un brin d'herbe, ça peut être de la science. Quand tu fais cuire des pâtes, c'est de la science. Et donc, voilà, elles nous entourent, et la rendre ludique, c'est une réappropriation, c'est éveiller de la curiosité, et c'est peut-être susciter des vocations derrière aussi.